Montpellier, sur Internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 18h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le Flash Info.
Bonsoir à tous. Un débat entre favoris ce soir, à un peu plus d'un mois des élections européennes. Jordan Bardella et Valérie Ayer se retrouvent à 21h sur BFM TV. Une rencontre entre les têtes de liste Rassemblement National et Renaissance qui pourrait bien marquer un tournant dans la campagne. Pour le politologue Bruno Cotres, Jordan Bardella mise sur cette soirée pour accentuer sa dynamique positive. Écoutez.
Il caracole en tête des sondages avec une avance considérable depuis de nombreuses semaines. Maintenant, est-ce que Jordan Bardella va montrer qu'il domine le sujet européen parfaitement face à Valérie Ayer qui est réputée pour la connaissance des dossiers européens et Jordan Bardella qui fait preuve très souvent d'une très bonne capacité à débattre, un candidat qui a une très forte capacité à tenir le choc face aux critiques, à dégainer des punchlines. Donc on verra effectivement un débat sans doute extrêmement intéressant, riche en contenu, avec sans aucun doute des grands moments de tension politique entre les deux.
Débat prévu dès 21h sur BFM TV. Les élections européennes, elles, auront lieu le 9 juin. Vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales. Rendez-vous en mairie jusqu'à demain soir. Emmanuel Macron évoque une nouvelle fois l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Le chef de l'État n'exclut pas ce scénario. Dans une interview au journal britannique The Economist, il faudra se poser la question si Moscou venait à percer les lignes de front, explique-t-il. En marge des manifestations pro-palestiniennes, la direction de Sciences Po Paris demande le retour au calme. Des discussions étaient organisées aujourd'hui entre la direction et les étudiants. Résultat, une réflexion interne va être lancée pour savoir si Sciences Po doit prendre position sur des sujets politiques. En foot, Reims n'a plus d'entraîneur. Le club annonce la mise en retrait de Will Steele après une série de résultats décevants. Les Rémois sont actuellement 11e de Ligue 1. Et puis après la Ligue des Champions, place à la Ligue Europa. En demi-finale aller, l'Olympique de Marseille reçoit les Italiens de l'Atalanta Bergame ce soir. Coup d'envoi 21h. Voilà pour l'info, excellente soirée.
La météo dans les Hauts.
Bonsoir à tous. Ce soir, le ciel est légèrement couvert sur le département. Les températures descendront à 13 degrés en moyenne en soirée jusqu'à 7 durant la nuit à Lunel. Demain, vendredi, le temps sera ensoleillé. Il fera 10 degrés à Montagnac le matin et 20 degrés à Lunel l'après-midi. Je vous souhaite de passer une belle soirée à l'écoute des programmes de Radio Aviva.
From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh.
Montpellier et dans l'Hérault.
Bienvenue dans Tempo. Cette semaine, je vous propose trois événements. Vendredi 3 mai, de minuit à 6h, au Thiès Warehouse, Your Next Night présente John K. en live avec Andorra, The Shadow, Vince Day et Tom Nils. Entrée de 14 à 19 euros. Le Thiès Warehouse, c'est 188 avenue du Marché-Gare à Montpellier. Le samedi 4 mai, à partir de 21h au Jam et dans le cadre du WAM Festival, Aquanaru sera en concert pour une soirée sous le signe du hip-hop, de la soul et du jazz avant-gardiste. Entrée 20,80€. Le Jam, c'est 100 rue de Ferdinand de Lesseps à Montpellier. Enfin, samedi 4 mai, de minuit à 6h, le PZ City Club reçoit Marc de Pulse. Il sera accompagné de Cyril M en room 1 et Tetris Hall en room 2. Entrée 15€, le PZ City Club, c'est 4 quais du Verdanson à Montpellier. Voilà, Tempo c'est terminé. Je vous souhaite de bonnes sorties sur vos spots préférés.
Tempo,
l'actualité de vos sorties nocturnes
à Montpellier et dans les Rhônes.
Matin d'hiver sur le palier, tu rentres chez toi, le regard froid, les cheveux mouillés, tu ne t'expliqueras pas. J'ai embrassé tous tes défauts, j'ai fini par les trouver beaux. Le cri de ton cœur lui sonnait faux, comme mes toutes premières compos. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Son parapluie. Jardin d'hiver, la fleur est fanée. Je ne saurais pas comment te plaire ni comment t'aimer. Je ne te reconnais pas. Pourquoi tous ces mystères? Mais dis-moi à quoi tu joues. Je vis sous le même toit qu'une étrangère qui s'éloigne jour après jour. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Madame se fout de dos, de dos, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Madame se fout de dos, de dos, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les son parapluie. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Elle sort sans son parapluie.
L'agenda, toutes les sorties et les loisirs dans les roues. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre agenda. Voici les événements et les sorties à venir. Du 6 au 24 mai, à la Maison pour tous Marcel Pagnol, l'école occitane d'aquarelle présentera l'exposition L'Aquarelle, un bonheur partagé. Une exposition composée des œuvres réalisées par les élèves dans le cadre des cours donnés par cette école. L'aquarelle, c'est tout un monde de sujets, couleurs, styles, techniques et formats bien singuliers. C'est aussi un moyen d'expression personnelle et d'évasion à aller découvrir lors de cette exposition ouverte à toutes et à tous en entrée libre. Au consulat honoraire de la République de Pologne le lundi 6 mai à 18h30, retrouvez une conférence intitulée « Paul Claudel et la Pologne, un rendez-vous manqué ?». Cette conférence sera animée par Daniel Kanlakas et traitera donc du lien entre le dramaturge français Paul Claudel et ce pays. Les places étant limitées, l'inscription est obligatoire pour y assister en contactant le consulat directement. Tous les premiers mardis du mois depuis octobre dernier, au Kawa Théâtre, retrouvez la 16e saison de Catch Impro. Soutenez les différentes équipes de cette saison et durant les différentes soirées du Catch Impro, donnez vos idées de sujets
sujets et profitez de représentations exceptionnelles et inédites à chaque fois. Pour assister aux dernières représentations de la saison, rendez-vous notamment le mardi 7 mai. L'entrée est au tarif unique de 15 euros. Amel et Sarah, deux humoristes quadragénaires et quinquagénaires, se lient d'amitié malgré leurs années d'écart et des cultures différentes. Explorant leurs points communs, avec une énergie débordante et l'envie de faire rire, elles décident dans ce spectacle de partager la scène pour chacune apporter leur propre univers. Un spectacle déjanté et plein d'émotions à retrouver le 7 mai à 21h au théâtre Point Comédie. Le tarif pour y assister est à partir de 14 euros. Du 8 au 12 mai, Le Fizz vous redonne rendez-vous pour sa 27e édition sur les berges du Lez à Montpellier. C'est l'un des plus grands festivals d'action sport au monde où des centaines de milliers de festivaliers partagent leurs passions et leurs valeurs communes. Chaque année, c'est une quinzaine de disciplines qui sont réunies pour des compétitions sur les installations mises en place pour l'occasion. Parmi elles, skate, BMX, trottinette, breakdance ou encore roller. Pour les intéressés qui souhaiteraient prendre leur place, rendez-vous sur le site de l'événement pour réserver vos billets à partir de 10 euros. C'est tout pour cet agenda. À bientôt sur Radio Aviva.
You're beautiful, that's for sure. Never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is
I don't know where my home is. Objectif emploi, mettez toutes les chances de votre côté avec Florian Mancion Institut.
Loïc Duhaire, bonjour.
Bonjour.
Alors, lors des recrutements, on entend souvent des chefs d'entreprise qui vous disent « En fait, moi, monsieur, je recherche le mouton à cinq pattes ». Bien, bien, bien. Alors, moi, j'ai envie de le dire, mais peut-être c'est comme la recherche de la femme parfaite. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors,
ou de l'homme parfait.
Ou de l'homme.
Allez,
ah,
je vais oser l'homme.
Soyons mariage pour tous,
voilà.
Etc. Le mouton à cinq pattes, c'est un vaste sujet, c'est un petit peu comme le mythe du Père Noël. Les enfants, n'écoutez pas ce que je vais raconter, hein. Attention Martine, je vais dire des bêtises. Tout le monde sait qu'il n'existe pas, ce brave Père Noël, mais pourtant tout le monde entretient le mythe. Le mouton à cinq pattes, c'est exactement pareil. Tout le monde sait que ça n'existe pas, hein, sauf à me prouver que scientifiquement, on arrive à faire des moutons à cinq pattes. Bon, il paraît qu'il y en a eu, qu'on fait des expériences, ça n'a pas été radieux. Mais en termes humains, pour l'instant, on n'a pas réussi à le faire. Et pourtant, effectivement, j'entends encore régulièrement, moi je cherche un mouton à cinq pattes. Pendant les salons emploi, j'ai entendu moi c'est un mouton à six pattes. Et j'ai même eu une structure, je ne vais pas les citer, mais très connue, qui a un grand parc d'attractions du côté de Paris, qui me dit nous c'est les moutons à dix pattes qu'on cherche quand on fait des castings.
Ah oui.
Bon. Alors moi je leur dis, c'est bien, mais comme vous savez que ça n'existe pas, et d'ailleurs on a écrit un livre, « Comment recruter un mouton à cinq pattes », et si vous lisez ce livre, vous verrez qu'il y a une surprise du côté du livre du mouton à cinq pattes, et vous aurez besoin des 13 secrets, 3 chasseurs de tête. Donc ça déjà, c'est la première base. Mais comme il n'existe pas, déjà on va essayer de s'échiner à trouver des bons moutons à quatre pattes. Ça serait déjà pas mal.
Des vrais moutons.
Ben oui, des beaux, avec une belle laine, avec
bien constitué,
qui travaillent dans le bon sens, qui font les choses comme il le faut, etc. Déjà, ça serait déjà pas mal. Avant de faire la liste à la Prévert que nous font les employeurs en nous demandant et ceci et bac plus 25 et 50 langues et 300 logiciels et bon, ok, on peut faire tout ça, on peut fantasmer. Ça s'appelle le profil idéal. Alors le profil idéal, il faut l'écrire, il faut le coucher, parce que c'est un peu comme un joueur de fléchette. Si vous lui mettez pas le petit rond rouge sur la cible, mais il a du mal à frapper au centre, parce que c'est des repères. On a ce besoin d'une cible, ok. Donc ça c'est le profil idéal. Maintenant, fantasmer sur le fait que je vais trouver quelqu'un qui ressemble à ça. Moi, j'ai perdu mes illusions il y a bien longtemps, chère Martine. Ça fait 20 ans que je fais ce métier et j'ai arrêté de courir après le mouton à cinq pattes, en fait.
Alors, moi, je me pose une question aussi. Le mouton à cinq pattes pour l'un n'est pas le même que pour l'autre.
En plus.
Là aussi.
Ah, mais bien sûr.
Donc, on est confronté à des compétences, des exigences qui sont parfois complètement diamétralement opposées.
Et je vais vous dire encore, c'est encore pire que ça. C'est que quand nous, on présente des candidats à la fin de notre métier, en tant que conseiller en recrutement, On va amener trois candidats, 14h, 15h, 16h, et on les présente au client, on est avec le client, on discute, etc. On est en soutien à la fois du candidat et à la fois de l'employeur, parce que être candidat, c'est pas un métier, hein. On recrute un directeur comptable, un directeur de production, un ingénieur ceci, un commercial cela, ok. Et de l'autre côté, l'employeur, c'est souvent rarement un professionnel du recrutement, même les RH, ils ont d'autres chats à fouetter que de faire uniquement du recrutement. Nous, on est des recruteurs. Donc on est en soutien de tout le monde. Et à 17h, on dit, monsieur l'employeur avec lequel vous avez envie de travailler. Et alors souvent, on nous dit, est-ce qu'on pourrait pas prendre un petit bout de celui-ci et un petit bout de celle-là et faire Frankenstein? C'est pareil, ça, ces moutons à cinq pattes, ça n'existe pas. Le meilleur candidat ou la meilleure candidate sont celui ou celle qui s'en rapproche le plus de notre profil idéal. Je ne fantasme pas sur le fait que le mouton à cinq pattes existe. Donc, êtes-vous un mouton à cinq pattes? Ne le soyez surtout pas, ça n'existe pas. Vous êtes unique, on est tous uniques.
Et puis peut-être même que certains défauts peuvent se transformer en qualité, parfois, lorsqu'ils exercent la profession ou l'emploi. Parce qu'on dit, on ne le veut pas parce qu'il a tel et tel défaut, mais parfois c'est une force.
Oui, mais bien sûr, ça va dépendre. L'âge, par exemple, le sexe, etc. Enfin bon, bref, tous ces éléments qui peuvent être parfois vécus comme on a eu la journée des droits de la femme il n'y a pas si longtemps que ça. Effectivement, on nous parle d'écart de rémunération, mais être une femme dans certains métiers et certaines entreprises, c'est très valorisé. Là où dans d'autres, ça ne l'est pas du tout. Ou c'est complètement neutre, c'est très variable. Mais pareil, sur l'âge, parfois on va chercher des juniors, parfois on va chercher des seniors. Si dans cette entreprise-là, pour ce poste-là, l'entreprise pense qu'il lui faudrait plutôt un junior et que moi je suis chez une senior, je peux tenter le coup, on verra bien, mais je vais pas me flageller en me disant je suis pas le bon mouton, c'est pas grave, c'est grave, non, je vais passer ailleurs, il y a certainement une entreprise qui cherche un mouton senior, etc. Donc Moi, je dis aux candidats, ok, les employeurs fantasment, se mettent des listes et des listes et des listes. Il n'en demeure pas moins que le recrutement, ça reste une compétition. Hein, donc, il ne faut pas oublier qu'il y a souvent des gens qui correspondent. Hein, ça peut paraître un peu fou, des fois, quand on voit les profils, mais croyez-moi, à force de lire des CV et de faire du recrutement, on a des candidats qui ont des sérieuses compétences très, très larges. Il faut quand même se confronter à cette compétition. Mais malgré tout, il y a des possibilités, il y a plein de poste disponible, si c'est pas celui-là c'est un autre, ça dépend, donc soyez pas un mouton à cinq pattes, soyez vous-même tout en essayant de maximiser vos compétences, de maximiser votre savoir, savoir-faire, savoir-être, tout au long de la vie. N'essayez pas, ne vous vendez pas en me disant que vous êtes
atypique.
Mais on est tous atypiques, Martine.
Bien
sûr. Et c'est ça qui est génial, c'est ce qui fait la qualité des êtres humains et la différence. Moi je sais que je recrute surtout pas des clones. Et donc, je veux pas que des moutons. Je veux pas que des moutons à cinq pattes, que des moutons à quatre pattes. Je veux une diversité de moutons, des blancs, des jaunes, des bleus, des verts, des grands, des petits, des ceci, des cela, en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être. Il me faut un peu tout.
Voilà, donc, en conclusion, je crois qu'il faut s'accepter tel que l'on est et que nos employeurs ne cherchent pas cette personne impossible à atteindre qui aurait toutes les qualités en une.
Exactement.
Il faut accepter les qualités, les défauts, et surtout donc pour les recruter, accepter d'être ce que l'on est et non pas ce qu'on souhaite que l'on soit.
Tout à fait.
Voilà, à très bientôt Loïc.
À bientôt.
C'était Objectif Emploi sur Radio Aviva. Objectif Emploi, un rendez-vous proposé par Florian Mentionne Institut.
Sur la route, entre Nîmes, Montpellier et Perpignan, Radio Aviva.
You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about.
Radio Aviva, partout, tout le temps. Sur la route, à la maison ou au travail, sur notre site radio-aviva.com, sur l'application gratuite pour smartphone et tablette, sur les box, les télés et enceintes connectées en demandant « Je veux écouter Radio Aviva ». Et désormais, profitez aussi de Radio Aviva en DAB+, à Montpellier, la radio numérique disponible sur la nouvelle génération de récepteurs radio et dans votre voiture.
Radio Aviva, le Flash Info.
Bonsoir à tous. Un débat entre favoris ce soir à un peu plus d'un mois des élections européennes. Jordan Bardella et Valérie Ayer se retrouvent à 21h sur BFM TV. Une rencontre entre les têtes de liste Rassemblement National et Renaissance qui pourrait bien marquer un tournant dans la campagne. Pour le politologue Bruno Cotres, Jordan Bardella mise sur cette soirée pour accentuer sa dynamique positive. Écoutez.
Il caracole en tête des sondages avec une avance considérable depuis de nombreuses semaines. Maintenant, est-ce que Jordan Bardella va montrer qu'il domine le sujet européen parfaitement face à Valérie Hayé, qui est réputée pour la connaissance des dossiers européens, et Jordan Bardella, qui fait preuve très souvent d'une très bonne capacité à débattre, un candidat qui a une très forte capacité à tenir le choc face aux critiques, à dégainer des punchlines. Donc on verra effectivement un débat sans doute extrêmement intéressant, riche en contenu, avec sans aucun doute des grands moments de tension politique entre les deux.
Débat prévu dès 21h sur BFM TV. Les élections européennes, elles, auront lieu le 9 juin. Vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales. Rendez-vous en mairie jusqu'à demain soir. Emmanuel Macron évoque une nouvelle fois l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Le chef de l'État n'exclut pas ce scénario. Dans une interview au journal britannique The Economist, il faudra se poser la question si Moscou venait à percer les lignes de front, explique-t-il. En marge des manifestations pro-palestiniennes, la direction de Sciences Po Paris demande le retour au calme. Des discussions étaient organisées aujourd'hui entre la direction et les étudiants. Résultat, une réflexion interne va être lancée pour savoir si Sciences Po doit prendre position sur des sujets politiques. En foot, Reims n'a plus d'entraîneur. Le club annonce la mise en retrait de Will Steele après une série de résultats décevants. Les Rémois sont actuellement 11e de Ligue 1. Et puis après la Ligue des Champions, place à la Ligue Europa. En demi-finale aller, l'Olympique de Marseille reçoit les Italiens de l'Atalanta Bergame ce soir. Coup d'envoi 21h. Voilà pour l'info, excellente soirée.
La météo dans l'Hérault.
Bonsoir à tous. Ce soir, le ciel est légèrement couvert sur le département. Les températures descendront à 13 degrés en moyenne en soirée jusqu'à 7 durant la nuit à Lunel. Demain, vendredi, le temps sera ensoleillé. Il fera 10 degrés à Montagnac le matin et 20 degrés à Lunel l'après-midi. Je vous souhaite de passer une belle soirée à l'écoute des programmes de Radio Aviva.
Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Aviva. Bienvenue sur Libre-échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'accueille ce soir Julien Daljari. Bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Vous êtes le président du Montpellier Handball qui traverse une belle année 2024, une belle année sportive.
Oui, oui, c'est vrai que c'est une très belle année. On avait préparé cette année comme étant une année clé sur le renouvellement qu'on faisait depuis ces dernières années. On a eu quelques blessés, mais malgré tout, on a quand même de très très bons résultats. Donc aujourd'hui, on est plutôt satisfait.
Comment vous imaginez la fin de saison? En tout cas, quel est votre espoir de fin de saison?
Pour le moment, on est toujours en course pour se qualifier en Final Four de Ligue des Champions. Et donc, on est déjà dans le top 8 européen, ce qui est exceptionnel et bien plus haut que les objectifs que j'avais fixés en début de saison. On est toujours en position, pourquoi pas, d'essayer un petit peu de chatouiller cette seconde place qui pourrait nous permettre de continuer de rêver de Ligue des Champions pour la saison prochaine, en attendant le match face à Nantes plus tard. Donc bon, il y a encore quelques espoirs. Et puis malheureusement, on n'a pas eu cette possibilité de jouer la finale de Coupe de France. Mais quand même, être dans un top 8 européen pour jouer les finales de Ligue des Champions et essayer de toujours aller chercher cette deuxième place, on est toujours plutôt pas mal et on a du boulot encore pour cette fin de saison.
Pour celles et ceux qui vont au match, on sent évidemment la dynamique, l'énergie, la cohésion. Alors à la fois des joueurs et puis du public. Hein, et c'est aussi probablement un de vos succès, ça.
Oui, c'est très important pour moi. En fait, l'une des valeurs du club qui est portée par l'ensemble du Montpellier Handball, c'est le partage. La performance aussi, mais c'est vraiment le partage. Et aujourd'hui, moi, j'estime que quand on est dans l'antre du FDI Stadium et même à la Sud de France Arena, on n'est qu'un seul et même public. Et à ce moment-là, on est à l'unisson derrière l'équipe et on doit vivre le match. En tout cas, moi, je vis le match tout comme les Blue Fox, tout comme les abonnés, tout comme les bénévoles, tout comme les partenaires, les institutionnels. Pour moi, c'est tous ensemble derrière le club.
C'est excessif de parler de famille ?
Famille, oui. Alors après, je préfère parler de partage. Mmh. C'est-à-dire que nous, on ouvre les bras à tous ceux qui veulent venir. On aime tous ceux qui veulent s'intéresser au Montpellier Handball et surtout, on veut partager ces grands moments tous ensemble.
Alors, un partage, comme vous le dites, il y a eu des partages, notamment avec Patrice Canaillé, qui est l'emblématique coach, 30 ans, c'est ça ?
Oui, c'est sa 30e saison. Ouais.
Ouais, ça sera sa dernière saison.
C'est ça, en fait. Alors, on dit souvent une page qui se tourne. Moi, j'ai dit plutôt un virage qui se prend parce qu'on ferme pas le livre. Au contraire, on continue. Et Et c'est important de pouvoir conserver les mêmes ambitions en continuant à développer tout ce que Patrice a pu faire à la tête du Montpellier Handball avec les différents dirigeants qu'il a pu avoir sur les 30 dernières années. Et aujourd'hui, c'est clair que on hérite d'un socle solide avec une belle structuration du club. Depuis 5 ans maintenant, j'ai supposé un vrai projet autour du Montpellier Handball. Et aujourd'hui, il faut le faire perdurer dans le temps. Il faut, comme je le dis, se servir de ces 30 ans, on va dire, d'exception pour pouvoir imaginer l'avenir avec ambition.
Alors 30 ans, 42 titres remportés, quels souvenirs vous gardez, quelles anecdotes, quelques-unes j'imagine, nombreuses, de vos voyages, de vos moments, de vos coups de gueule probablement, il y en a eu avec lui, parce que c'est ça aussi une relation très forte entre un président et un coach, j'imagine.
Ouais, alors c'est pour moi c'est un peu phénoménal et c'est exceptionnel, c'est-à-dire que moi j'ai connu Patrice, je devais avoir 13 ans,
ouais.
Et je l'ai connu parce qu'au démarrage de famille, on était partenaire du club et donc du coup, on a fait des voyages en Ligue des Champions, en Autriche ou ailleurs, avec l'équipe professionnelle, Patrice et ma famille. Et donc, évidemment qu'au début, je l'adulais et c'était pour moi un peu une icône. Mm-hmm. Un vrai dirigeant qui, en plus, menait son équipe. Et puis, mes premières expériences quand j'étais jeune, à 13 ans, à aller en Autriche avec l'équipe. Et puis, il me prenait avec lui, il me faisait rencontrer les Michael Guigou à l'époque, les Greg Anctil, tous ces grands joueurs que j'adorais. Et donc ça, c'est les premières anecdotes en fait que j'ai avec lui, où quelque part il me tendait la main pour me faire rentrer dans cet univers. Et puis depuis aujourd'hui, j'ai gravi les échelons et j'ai pris la présidence du club. Donc c'est un relationnel un peu plus de travail qui s'est instauré. Malgré tout, on garde des relations très de proximité et d'amitié depuis de nombreuses années. Et puis Patrice, aujourd'hui, c'est quelqu'un en qui j'ai une entière confiance. Donc c'est quelqu'un que j'ai laissé aussi faire son travail, même si j'apportais ma touche à moi. Donc on a su travailler ensemble puisqu'on a cette vision commune. Après, c'est sûr que des fois, on a des visions un peu différentes. Des fois, il fallait un peu secouer les choses. Vous parliez un petit peu de tension. On en a eu une.
En tout cas, de coup de gueule. Ouais,
ouais, on en a eu une seule depuis que j'ai pris la présidence. C'est quand on était 9e du championnat à la trêve, où on a discuté ensemble et je lui ai dit que il fallait du changement et que soit il partait, il fallait qu'on change, ce que je ne souhaitais pas, soit Patrice Canaillé devait faire du Patrice Canaillé.
Ouais.
Et 6 mois après, on retrouve dans mes livres que il dit j'ai fait du Patrice Canaillé parce que on est passé de la 9e place à la 3e et là ça a été un vrai rebond pour l'équipe.
Vous évoquiez un virage. Comment s'imagine la suite et comment vous imaginez la suite? Comment se prépare la suite?
Alors ça fait déjà quelques mois qu'on le prépare. Uh-huh. Puisque Patrice a annoncé en août qu'il souhaitait partir, en tout cas arrêter son contrat. Absolument. Ici au Montpellier Handball. Et puis, à partir de là, j'ai priorisé, parce qu'il faut quand même faire les choses par étapes. La première étape, c'était de trouver le staff sportif. Donc, c'est-à-dire qu'il me fallait un nouvel entraîneur. Il fallait voir si l'entraîneur adjoint restait ou s'il fallait en trouver un nouveau. Pareil pour le préparateur physique. Qu'est-ce qu'on fait aussi des autres membres du staff, le kiné, le team manager? Donc ça, c'était la priorité, parce que malgré tout, on fait tout le reste pour que le sport fonctionne. Donc il fallait la priorité au sport. Une fois ces décisions prises et la décision d'Éric Maté avec son staff qui arrive, il fallait restructurer le club. C'est-à-dire que Patrice, aujourd'hui, il n'est pas que coach, il est aussi manager général du Montpellier Handball. Donc il fallait voir la meilleure organisation, en tout cas celle que je juge être la meilleure aujourd'hui, pour pouvoir continuer à faire vivre ce club qui est un acteur du territoire, qui est un acteur de notre sport, un acteur majeur, et qui doit continuer à l'être dans le temps et avec l'ambition que l'on a aujourd'hui et que l'on aura demain. Pour ça, il fallait rencontrer tous les managers du club, il fallait rencontrer tous ceux qui font le travail au quotidien, et puis voir un petit peu, imaginer la meilleure organisation, tout en discutant aussi avec les actionnaires du club. Donc c'est chose que j'ai faite, et aujourd'hui, je mets pas forcément de 109 dans le club, mais je restructure avec les compétences de chacun, et puis on va voir si ça fonctionne.
Vous avez souvent la formule de l'acteur du territoire, le Montpellier Handball acteur du territoire. Ça veut dire quoi exactement, pour vous, à vos yeux en tout cas, vous qui êtes le président depuis 2019?
Aujourd'hui, le Montpellier Handball, je dis souvent qu'il doit être en lien avec son environnement. Et son environnement, je parle de son environnement local. C'est-à-dire que de tout temps, en tout cas depuis très longtemps, on a su ancrer le Montpellier Handball dans le territoire. Parce qu'on a eu de vrais partenariats avec la mairie, avec la métropole de Montpellier, avec la région et avec aussi le département. Ce sont des acteurs qui nous aident à nous développer, mais que l'on aide aujourd'hui aussi dans des actions concrètes. C'est-à-dire qu'on agit, on envoie des éducateurs dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées. On va faire de temps en temps aussi des plugins où on va faire des ramassages de déchets dans toute la métropole. On va envoyer aussi des joueurs, des fois, de temps en temps, sur des représentations, sur des choses importantes, des moments importants pour la métropole. Par exemple, on a communiqué sur la gratuité des transports. On a fait cette saison notre clip de lancement dans le tramway qui était dédié au Montpellier Handball. C'est un vrai échange que l'on a, que ce soit avec Mickaël Delafosse, président de la métropole de Montpellier et maire de la ville, que ce soit aussi avec la région, présidée par Carole Delga. On a un vrai échange avec Amel Chibli notamment, et puis avec la marque Sud de France aussi, on fait de nombreuses actions, et puis aussi avec le département du président Kléber Mesquida, on agit dans les collèges de temps en temps sur des demandes, on fait des journées, et d'ailleurs il y en a une dans pas longtemps, où le Montpellier Handball est acteur du territoire, et en fait je pense que c'est normal. On doit rendre au territoire ce qu'il nous donne, et puis en plus de ça, on est une marque, une vraie marque, ici à Montpellier. On doit faire rayonner notre territoire, c'est aussi l'une de nos missions.
Peut-être sensible à des causes conduites sur le terrain, je me rappelle sur le sport santé par exemple, le sport et la santé, vous avez conduit là aussi plusieurs initiatives avec vos joueurs, c'est important aussi d'être sur ces sujets.
On a une vraie charte RSE qui s'est développée, c'est-à-dire qu'on faisait énormément de choses pendant des années, mais on ne l'a jamais mis sur papier. Ouais. Depuis 3 ans, on a une vraie charte RSE qui est basée sur certains piliers. Dans un des piliers, il y a effectivement l'environnement, on fait les plugins, on va faire pas mal de choses. Il y a aussi la santé, comme vous dites, le sport santé, etc. Et puis, il y a aussi la féminisation, c'est important. Donc, depuis quelques années, moi, je ne supportais pas qu'on puisse avoir l'idée d'une jeune fille, fan du Montpellier Handball, qui vienne poser son dossier pour jouer au handball chez nous, qu'on lui dise non, tu ne peux pas parce que tu es une fille. Et donc on a ouvert les catégories U13, U15, petit à petit on ouvre parce qu'il faut se structurer pour ça, pour qu'une jeune fille qui aime le Montpellier Handball puisse jouer sous les couleurs du Montpellier Handball. C'est beaucoup de valeurs comme ça qui sont importantes depuis longtemps au Montpellier Handball, mais qui sont maintenant sur papier et que l'on suit chaque année et que l'on développe tous les ans avec nos valeurs, avec la structure SAS, mais aussi avec l'association et le fonds de dotation du Montpellier Handball, qui cette année fera un gala le 28 mai prochain, comme on fait chaque année. L'année dernière, on a récolté un peu plus de 100 000 euros pour faire des actions concrètes, et cette année, ce sera en faveur du cancer.
Cancer, et quel type d'action pourriez-vous conduire autour de cela? C'est-à-dire que là, vous allez accompagner des projets portés par des établissements de santé?
C'est-à-dire que cette année, on est en lien avec l'ICM, qui a un projet d'achat d'une machine, et donc du coup, aujourd'hui, on va essayer de financer cette machine. Les années précédentes, l'année dernière par exemple, c'était le sport santé, notamment le paralympique aussi, avec l'olympisme. Donc on a aidé à des jeunes ou moins jeunes et à des athlètes valides ou invalides, ou en tout cas en situation de handicap, pour aller aux Jeux Olympiques. Et puis l'année d'avant, c'était par rapport à la guerre en Ukraine, où on a financé des panneaux, un peu comme des petits panneaux solaires, qui alimentent des machines de santé pour le peuple ukrainien.
Alors l'ADN du Montpellier Handball, enfin l'un des ADN, c'est la formation, c'est la détection des jeunes pousses finalement qui demain seront des grands champions.
Bien sûr, très important pour nous. On a l'habitude de dire même que plus de la moitié de l'équipe de France a été formée à Montpellier. Ouais. C'est une vraie fierté. C'est à la fois une fierté, mais à la fois aussi un besoin, puisque il vaut mieux former des grands joueurs que les acheter. Économiquement, on s'y retrouve mieux. Et puis aussi pour aujourd'hui, par exemple, quand on joue contre Kiel, en face de nous dans les cages, il y a un Samir Belhassen qui est un des meilleurs gardiens du monde aujourd'hui et qui est très attaché à la marque Montpellier Handball, qui est très attaché au club de Montpellier, qui a su nous rendre des services et qui aujourd'hui, je sais que peut-être qu'un jour il pourrait revenir au club, tout comme d'autres joueurs, comme par exemple Rémi Desbonnets, qui lui est parti à Nîmes de nombreuses années, mais quand je l'ai rappelé pour venir à Montpellier, il est venu en courant et aujourd'hui il fait les beaux jours du Montpellier Handball. Donc c'est important pour nous de former, c'est important pour nous d'être acteurs aussi de notre sport, de développer notre sport. Ça a toujours été le cas. On a été aux prémices de la création de la Ligue nationale de handball, on a été aux prémices de la création organisation de regroupement des clubs européens. Ouais. Donc tout ça, c'est des choses qui, pour nous, on est au fondement. Et donc du coup, la formation, c'est pareil, on est au fondement des meilleurs joueurs du monde, en tout cas, j'espère.
Ils ont quel profil, ces jeunes qui viennent vous voir? Je ne sais pas, vous en rencontrez, vous, régulièrement, qui viennent vous dire, Montpellier Handball, c'est ce que je voudrais faire demain
Ouais, c'est des joueurs qui rêvent. Alors, c'est important aujourd'hui d'avoir ces joueurs qui rêvent, et même plus que plutôt des joueurs qui rêvent d'un salaire ou d'être connus. Il faut des joueurs qui rêvent de jouer pour Montpellier, parce que ça leur donne un regain d'énergie supplémentaire et fait qu'aujourd'hui, on peut regarder droit dans les yeux les plus grandes équipes d'Europe, parce que un joueur qui porte aujourd'hui le logo du Montpellier Handball sur le cœur, il le porte vraiment même au plus profond de son corps, et fait que il va se donner au maximum sur le terrain pour gagner. Et l'ADN de performance, gagner, ça fait partie des fondements, des valeurs du club.
Alors, des joueurs qui rêvent probablement de jouer dans une nouvelle salle de 6000 places, c'est ça le projet sur lequel, Julien Deljarry, vous travaillez. Où en êtes-vous de ce dossier dont on entend parler depuis quelques années maintenant, en lien avec la métropole et la ville de Montpellier?
Bien sûr, c'est un dossier fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réalise un peu des miracles en étant en quart de finale de Ligue des Champions avec un stade de 2560 places. C'est très peu, c'est le 14e stade de France, imaginez, et derrière même des stades de 2e division. Aujourd'hui, la réalité, c'est que notre modèle économique ne peut pas exploser via la publicité, via les droits télé, via les partenariats privés, même si ça nous aide beaucoup. Aujourd'hui, le vrai levier d'augmentation, il est sur le ticket et la place, et donc la billetterie. Et donc pour ça, aujourd'hui, c'est sûr que économiquement, quand on a aujourd'hui 600 VIP et que demain on peut en avoir 2000, quand on a aujourd'hui 1500 places assises et que demain on peut en avoir 4000 à chaque match, sur 25 matchs par an, c'est certain qu'aujourd'hui, si on veut rester parmi les grandes d'Europe, parmi les clubs français qui vont chaque année en Coupe d'Europe, il va falloir cet outil, puisque les autres l'ont. 16 clubs longs devant nous, et puis je prends l'exemple de Nantes aujourd'hui où jusqu'à maintenant on avait plutôt budget équivalent, et puis eux ils ont leur salle de 6000, eux ils font des événements dans leur salle, eux ils ont su structurer, et aujourd'hui ils vont avoir un budget où ils vont avoir 1 à 2 millions d'euros de plus que nous par rapport à l'an prochain, et donc c'est colossal chez nous dans le handball.
Je comprends bien les besoins, je comprends bien évidemment le modèle économique que vous précisez. Où en est ce projet? Il y aurait deux options, c'est ça, sur la table?
Oui, en tout cas Michael Delafosse, maire et président de la métropole de Montpellier, m'a présenté des possibilités qui sont des possibilités très intéressantes, puisque nous on a trois volontés. La première, c'est que ce soit desservi et que ça puisse être accessible, et ça c'est très important. La deuxième, c'est qu'on puisse nous gérer le stade, parce que si on est comme à l'Arena où on est en plus de spectacles ou autre, et donc du coup on n'a pas de place pour tous les matchs, c'est pas possible. Et puis la troisième, c'est qu'il y a un peu d'activité autour et qu'on puisse créer du commerce, pourquoi pas. En tout cas, c'est très important qu'on puisse avoir ces 6000 places dans un environnement qui nous permette de faire venir du monde et de créer, comme on le fait aujourd'hui, on essaie de faire en sorte que ce FD Stadium vive au quotidien, et ce serait de créer la même dynamique demain. Donc effectivement, il y a deux possibilités qui m'ont été présentées, et l'idée qui m'a été donnée de la métropole, c'était de réfléchir en faisant le pour et le contre de chaque chose, étudier de leur côté les possibilités et de revenir vers moi d'ici fin de saison en me disant aujourd'hui il faut qu'on se positionne et on ira plutôt vers là ou plutôt vers là.
Et vous pouvez nous préciser ces deux projets ou ils sont confidentiels?
Non, je laisse ça plutôt à la métropole.
Ce projet, on l'a vu, est évidemment important pour le territoire, pour le club, dans la perspective évidemment des saisons prochaines. On va parler des JO si vous le voulez bien. Les Jeux Olympiques ont lieu dans un peu moins de 100 jours. La flamme olympique passera par Montpellier le 13 mai, passera par la région du 13 au 16 mai. Comment vous vivez cet événement?
C'est exceptionnel pour nous. Moi, j'ai l'habitude de dire, et alors il faut garder un peu de modestie, c'est pas par rapport aux autres que je dis ça, mais quand même une vraie fierté qu'on soit l'un des clubs, si ce n'est le club qui va avoir le plus d'athlètes aux Jeux Olympiques.
Absolument.
Finalement dans la région, on va avoir, alors c'est pas encore sûr, mais entre 8 et 10 athlètes qui seront aux Jeux Olympiques l'an prochain, enfin cet été. Donc c'est une vraie fierté pour nous, pour la marque Montpellier Handball, pour le territoire, et puis surtout on espère qu'un maximum d'entre eux vont revenir avec la médaille d'or olympique. Je rappelle qu'il y a 4 ans, enfin il y a 3 ans exactement, on a 3 Montpelliérains qui sont revenus avec la médaille d'or olympique qu'ils ont gagné sous le maillot de l'équipe de France. Donc que ce soit français, suédois, argentin ou croates qui vont jouer les Jeux Olympiques. On espère qu'au moins un athlète du Montpellier Handball reviendra avec la médaille d'or olympique.
Et là, pour le coup, on sait que les médailles peuvent susciter des vocations chez les plus jeunes de nos concitoyens hein, qui vont regarder spectacle avec des étoiles dans les yeux.
Bien sûr, il faut le mettre en avant, il faut le célébrer, il faut qu'à ce moment-là, on puisse faire un maximum de photos avec ces athlètes et les jeunes, parce que c'est exactement ces moments-là, en fait, où on va donner des envies, on va susciter quelques rêves et qui font qu'après, derrière, y en a qui vont trouver leur voie pour que demain, ils puissent s'épanouir dans leur vie, finalement.
Ça vous énerve, ça vous irrite, toutes les polémiques autour des Jeux Olympiques? Quand on parle de JO aujourd'hui, on parle de polémiques, de grèves futures possibles, de coûts de l'opération. On est en France, c'est vrai, mais bon, vous, le dirigeant d'un grand club sportif, ça doit vous énerver, ça, non?
Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on va accueillir en France, une des compétitions majeures internationales, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas des plus grosses finalement. Et on devrait depuis 3 ans avoir les Jeux Olympiques tout en France, ouais, avec des drapeaux partout, avec des affiches partout, avec des entreprises affiliées de partout, avec des clubs qui vont faire à droite, à gauche des événements, etc. On devrait parler sport et vivre sport depuis 3 ans en France. Après, il y a d'autres sujets, je peux le comprendre, hein, qui sont mondiaux et qui inquiètent, et en tout cas qui amènent d'autres choses, interrogations et priorités. Mais quand on a un événement majeur tel que les Jeux Olympiques en France, on devrait depuis 3 ans parler, manger, dormir Jeux Olympiques depuis 3 ans en France pour Paris 2024.
La faute à qui ?
Je sais pas. Aujourd'hui, est-ce que il y a des débats? Est-ce qu'on est une nation sportive? Est-ce que la priorité chez nous c'est le sport? Est-ce que aujourd'hui notre économie et le sport font bon ménage? Il y a beaucoup de débats qui sont faits. Moi, je dis juste qu'aujourd'hui, le sport amène des émotions et fait du bien et donne du plaisir aux gens. Nous, je vois à chaque fois qu'on gagne au stade, on donne du plaisir aux gens. Le nombre de messages, le nombre de voilà, 3 jours après, on en reparle. Dès qu'on croise des gens, c'est super, etc. Enfin, et les Jeux Olympiques, ça aurait dû donner le sourire aux gens jusqu'aux oreilles. Et on aurait pu capitaliser là-dessus sur de nombreuses années. Après, toujours est-il de fixer la priorité dessus. Et c'est pas chose qui a été faite, mais petit à petit, on y vient, un peu tardivement à mon goût. Mais en tout cas, il faut quand même que ça reste une belle fête. Et ça, c'est la priorité pour moi.
Au syndicat qui menace de faire grève, vous dites soyez responsable.
Je dis c'est dommage. Je dis c'est dommage parce que quand il y a une fête, il faut prendre part et il ne faut pas être les perturbateurs.
Vous parliez d'émotion. Alors, on sait votre amour, je peux dire ça, pour le handball depuis bien des années maintenant. Comment c'est né tout ça? Comment ça se connecte?
C'est une découverte. C'est un jour, j'ai voulu changer de sport. Je faisais du tennis, du golf, et j'ai un ami qui m'a dit viens voir le handball. J'ai commencé à venir voir le handball, et après, pendant 10 ans, j'ai loupé peut-être 4-5 matchs à domicile. Voilà, en tout, sur les 10 ans. Mm-hmm. Parce que c'est une vraie passion qui s'est installée. J'ai adoré ce sport, et puis je souhaite à tout le monde de trouver sa passion, parce qu'après, derrière, on s'épanouit dedans. Et j'ai la chance de pouvoir, après, derrière, être bénévole, être partenaire, être actionnaire, et aujourd'hui président. Voilà, c'est une vraie évolution, et aujourd'hui, c'est sûr que ma vie, le sport fait partie intégrante de ma vie. Et le Montpellier Handball aujourd'hui est l'un des 3 piliers de ma vie, c'est certain.
Quand vous voyez les frères Lebrun, par exemple, les pongistes, qui sont de vrais phénomènes aujourd'hui, quel regard vous portez sur ce binôme-là qui est assez extraordinaire? Vous racontiez votre émotion, cette connexion, cette découverte. On voit que là, c'est toute une famille, et c'est le cas aussi dans votre famille, on peut le dire. Hein, tout le monde vit beaucoup, en tout cas, vit autour du sport.
Oui, tout à fait, autour du Montpellier Handball. C'est absolument vrai que quand il y a une vraie connexion qui se crée comme ça, c'est partager une vie entière sur un sport, sur une cause finalement. Et pour nous, la cause c'est le sport, c'est le Montpellier Handball, pour eux c'est le ping-pong. Et d'ailleurs, je suis très admiratif de ce qu'ils font, et c'est vrai qu'il faut un environnement sain, il faut du soutien autour de soi pour pouvoir arriver à faire ce genre de choses. Un autre exemple, sur le match aller face à Kiel, j'ai eu le plaisir d'inviter Arthur Cazot vient voir les matchs, et il vient avec son père, avec sa mère, on a besoin d'avoir cet encadrement familial, mais aussi dans les amis proches qui partagent notre passion et cet engouement pour ce que l'on aime, et ça rend des moments exceptionnels.
Alors, on sait votre famille très impliquée en effet autour du handball. C'est un sujet quotidien, je sais pas, de dimanche, de comment ça se passe? Alors, on sait, on peut le dire à ce micro, et tout le monde le sait, votre père, André Deljarry, président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, qui est aussi le premier des supporters.
Oui, et puis je pense qu'à l'époque où le club a eu des difficultés et qu'il a fallu trouver quelqu'un pour le sauver, ouais. Je pense que c'était pas étranger au fait que ce soit ma passion.
Ouais.
Évidemment que je pense qu'il l'a fait aussi pour moi, et je pense qu'aujourd'hui, ben, c'est ce qui fait que ben, on fait des réunions de temps en temps ensemble au Montpellier Handball, on voit l'avenir ensemble, et puis ça nous rassemble, ça nous fait se partager des moments un peu privilégiés, et je suis heureux de le partager avec mon père, je suis heureux de le partager aussi avec mon frère qui est partenaire principal du club, ma maman aussi qui suit tous les matchs, qui vient quand on est même à
elle
Paris pour les
matchs,
finales.
C'est vrai.
Ouais, tous les matchs, alors pas toujours à l'extérieur,
bien
mais
sûr, ouais.
En tout cas à domicile, elle est tout le temps là, ils ont leur place à eux, et puis après, ben voilà, dans mes amis aussi, j'ai des amis qui sont devenus aussi actionnaires, que j'ai tous les jours au téléphone parce qu'on parle du Montpellier Handball, donc ça rythme le quotidien, ça nous rapproche. Et ça nous rassemble, et c'est ce qu'on aime autour de cette aventure.
Nous l'avons dit, vous êtes président depuis 5 ans. Qu'est-ce que ça a changé chez vous, responsabilité-là ?
On prend en maturité, on essaye aussi d'ouvrir les horizons. Aujourd'hui, quand on va en Ukraine, quand on va en Pologne, quand on va partout, et ben, on rencontre des dirigeants, on rencontre du monde. Mais alors, autant ça m'a agrandi l'esprit, ouvert l'esprit vers des nouvelles personnes que je ne connaissais pas et un nouveau monde que je rencontre, autant ça m'a aussi rapproché de tous les supporters qu'on a, tous les bénévoles que l'on a, tous ceux qui travaillent pour le Montpellier Handball, qui en fait sont fans du club, passionnés du club, et en fait des fois même je suis admiratif parce que on va à Kiel et en fait il y a 6 supporters qui viennent, ça paraît dérisoire, mais c'est 6 personnes qui ont posé 2 jours et qui font 1500
km. Un peu d'argent pour venir.
C'est ça, exactement.
Supporter, ouais.
Quand on va à Chambéry, c'est un bus de 50 personnes et en fait moi je suis reconnaissant envers ces gens, ces personnes-là, et j'aime partager avec eux, et que ce soit aussi les bénévoles qui passent énormément de temps. Alors moi je suis bénévole aussi, donc je sais ce que c'est, mais je le fais par passion, eux aussi, et eux le font aussi, même des fois à la sueur de leur front, et pour tout ça honnêtement ça m'a reconnecté aussi à cet aspect de partage avec les gens qui aiment ce club. En tout cas on partage la même passion, et ça fait plaisir.
Alors évidemment des bénévoles, on le dit, des supporters, président depuis 5 ans, on a évoqué l'Europe et parfois le théâtre de conflits, de crises, mais le sport finalement, est-ce que ça balaye pas tout ? Est-ce que ça, parce que finalement le sport, on est dans un autre environnement de partage, et donc tout le reste qui peut être très négatif est un peu oublié, non ? Quand on va à Kiel par exemple.
Quand on va à Kiel, surtout quand Kiel vient et qu'on gagne de 9 buts, je peux bien vous sûr. Assurer que à ce moment-là, tout le monde dans le stade oublie tous ses problèmes.
C'est ça.
Plus personne n'a de problème.
Mm-hmm.
Et à ce moment-là, même le lendemain matin, on s'appelle, on est tous fatigués parce qu'on a des journées qui démarrent tôt le matin, mais on s'est couché très tard. On est tous fatigués, mais tous heureux, en fait. Et ça nous donne le sourire. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux Jeux Olympiques, par rapport à tout. En fait, le sport est vecteur d'émotions. Et quand on le partage, comme on le fait, nous, dans le handball, sans parler des autres sports, mais quand on le fait, nous, dans le handball, le partage fait que, en fait, on se rend heureux mutuellement. On est heureux de partager tout ça. Et que ce soit un enfant quand il voit un joueur et qu'il a les yeux qui pétillent, ou que ce soit les partenaires ensemble, que ce soit les bénévoles, que ce soit les supporters quand ils viennent voir des joueurs. Voilà, c'est ces moments-là où, en fait, on se raccroche à quelque chose qui nous donne du bonheur. Et c'est ça l'idée, c'est d'aller chercher du bonheur autour de belles victoires, et tout en gardant des valeurs d'ambition. C'est-à-dire qu'on reste dans la proximité, dans le partage, mais dans l'ambition. Et c'est ça l'équilibre que l'on a au Montpellier Handball sur notre territoire, en France et en Europe.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite avant la fin de la saison ?
D'être champion d'Europe, comme on dit, jamais 203, et ça serait exceptionnel que Patrice termine au Montpellier Handball à Cologne, et pourquoi pas sur une victoire. Ce serait le Graal, évidemment, de pouvoir avoir une troisième étoile sur le maillot. Faire partie de ce club très fermé, voilà, mais c'est le plus grand souhait, c'est un rêve qui n'était pas forcément l'objectif de début de saison. On se prend à rêver quand on bat Barcelone à Barcelone, alors que personne ne l'a fait en France. On se prend à rêver quand on bat de plus 9 Kiel à domicile, qui est la deuxième équipe qui a gagné le plus de Ligue des Champions derrière Barcelone. Donc quand on bat les deux équipes qui ont gagné le plus de Ligue des Champions, on se prend à rêver. Maintenant, il faut garder les pieds sur terre, et surtout se dire aussi que on se souhaite que la saison prochaine soit aussi belle que cette saison, voire meilleure, et que les années suivantes soient toujours encore meilleures pour le Montpellier Handball.
Un grand merci, Julien Deljarry, président du Montpellier Handball. Vous étiez mon invité ce soir
merci
sur Radio Liva. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Libre échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscaye.